Voici Alexis Sanson.
Ah, ça, j'aime ça. Me promener dans l'histoire, voyager comme ça, de me rappeler des souvenirs, ça m'a toujours intéressé. Puis, entendre les histoires que mon grand-père me contait, parce que mon grand-père a fait de la drave sur la rivière Saint-Maurice, puis il me racontait ça quand le bois arrivait, puis ça se promenait. Puis là, tu sais, ici, on a Borealis, entre autres, à Trois-en-Rivière, qui se penche un peu sur cette histoire-là des pâtes et papiers au Québec. Mais je pense qu'on réalise pas à quel point l'industrie des pâtes et papiers en Mauricie a eu un impact qui est incroyable. Et en plus, quand on parle de pâtes et papiers, c'est un incontournable, ça nous permet aussi de parler probablement de l'une de mes passions, c'est-à-dire de la ville de Latuc, parce qu'il y en a beaucoup que ça vient de là. Et je me suis dit, ben, je vais donner la mission à mon ami François Thérien, qui est, j'oserais le qualifier de journaliste historique, de nous faire un peu l'histoire de l'industrie des pâtes et papiers en Mauricie. Salut François.
Salut Alexis.
Alors François, t'avais pas la moindre des missions, mais je me suis dit, il y a quelque chose de mauditement intéressant là-dedans.
Oui, parce que l'industrialisation du Québec, c'est pas mal lié à ces forêts. D'abord, il y a eu l'exportation du bois vers l'Angleterre, alors que ce pays-là était soumis au blocus continental. Ça, c'était à l'époque de Napoléon, là, au début du 19e siècle. La construction navale qui était florissante dans la première moitié du 19e siècle. Il faut se souvenir que les navires étaient construits en bois dans ce temps-là. Mais quand ça a changé, puis que les navires on a commencé à construire les bateaux en métal, ben c'est la transformation du bois en papier qui a pris le relais. Là, on est à la fin des années 1800. Et la popularité croissante des journaux, ça va occasionner une demande exponentielle pour le papier. Puis avec ces forêts à perte de vue, ces rivières qui permettent d'acheminer la matière première vers les grands centres, bien, il y a plusieurs régions du Québec qui avaient ce qu'il fallait pour sauter dans ce train-là. Et la Mauricie va particulièrement en profiter grâce à ses nombreuses forêts, sa situation au confluent de la Saint-Maurice et du Saint-Laurent, deux autoroutes importantes du temps. Dans le fond, la Saint-Maurice, le Saint-Laurent, c'était à la 40, puis le Saint-Maurice, c'était à la 55.
Ouais, c'est
dans
ça,
ce temps-là,
hein?
C'était pas mal.
C'est vrai.
C'était pas mal ça. Alors, en tout, il y a 125 usines de pâte et papier qui ont été construites au Québec entre le début des années 1800 puis à peu près les années 30. Là. Grosso modo, il y en a eu quelques-unes après, mais pas beaucoup. Puis aujourd'hui, des 125, il en reste seulement 19. Ça a beaucoup diminué. C'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en compte le plus avec 4. Mais la Mauricie a longtemps été la capitale des pâtes et papiers avec 7 usines. À un moment donné, il y avait 7 usines en Mauricie.
Il
en subsiste 3. Il y en a 2 à Trois-Rivières, puis l'autre est à Latuc. D'ailleurs, le cégep de Trois-Rivières héberge un centre de recherche sur les pâtes et papiers. C'est le seul au Québec. Il s'appelle le Centre d'innovation des produits cellulosiques. Autrefois, on l'appelait le Centre spécialisé en pâtes et papiers. Et les 7 usines dont il est question ici ont été construites entre 1889 et 1923. La toute première a été construite à Grand-Mère. Elle s'appelait la Laurentide. Elle était près de la chute du lac à la Tortue.
Mais oui.
Elle a fermé en 2014. Alors quand même, elle a été ouverte au-dessus de 100 ans, cette usine-là.
Puis ici, de la Laurentide, c'est là où il y a Nebraska Lithium qui s'est installé dans le même coin aujourd'hui. Là. Mais ça, c'est imposant. Là, quand vous passez dans ce coin-là, tout le monde voit le site qu'il y avait là.
Ben, c'était l'endroit idéal parce qu'il y avait une chute pour produire de l'électricité puis un chemin de fer pour acheminer la marchandise aux clients. Parce que l'électricité, c'est important. Une papetière, ça en demande et pas à peu près. Il y a la Belgo qui suit en 1900. Et les 5 autres usines voient le jour dans un espace de 13 ans entre 1910 et 1923. La Brown à Latuc en 1910. La Saint-Maurice Paper au Cap de la Madeleine la même année. Suivie par la Wayagamack en 1912. La Wayagamack qui a été achetée par Kroger en 1973. Puis finalement, il y a la Canadian International Paper en 1920, celle qui a fermé en 1992, et la St. Lawrence Paper Mills, maintenant la Kroger, qui a été construite en 1923. Mais évidemment, la force de la région va finir par devenir sa faiblesse, parce qu'il y avait à l'époque, là, en 1925, là, à l'époque là, où ça roulait à plein régime, il y a près d'un emploi sur deux en Mauricie qui est dans une de ces usines-là.
Ouais, c'est sûr.
La moitié des emplois travaillaient dans les pâtes et papiers. Certaines localités, c'est le seul employeur. Latuc, par exemple, là, il y avait l'usine, la Brown, puis tout le monde travaillait là ou à peu près.
François, pour te raconter une histoire, à Latuc, là, mon père, il y avait un chalet là quand il était plus jeune, puis il se disait, si tu voulais savoir qui c'est qui venait pas de Latuc en sortant de l'épicerie, là, tu regardais ce qu'il avait acheté comme lait. Celui qui avait acheté un lait en pinte, là, lui était correct. Celui qui avait acheté un sac de lait, là, il venait pas du coin parce qu'il n'encourageait pas le monde local.
OK, parce que le lait en pinte était local, puis pas le lait en sac.
Ben oui, parce que les sacs, c'était du plastique, fait que c'était pas des pâtes, c'était pas du papier.
Là
mais
là.
Le papier de lait, ça par exemple, tout le monde à la tuque achetait tout le temps sa pinte en carton pour encourager local.
Ah, quand même, hein? Quand même. Après ça, il y a Cap-de-la-Madeleine, grand-mère, c'était 80 % de la main-d'œuvre qui travaillait aux usines. Trois-Rivières, Shawinigan, ça tournait autour de 35-40 % Alors, c'était moins mono-industriel dans ces deux villes-là. Puis le déclin de l'industrie va donner un coup dur à l'économie de la région pendant un bon bout de temps. On pense entre autres à la fermeture de la CIP en 1992. Ça envoie 1000 employés au chômage. C'est beaucoup, ça. Et pour la Belgo en 2007, c'était 560. Alors, pensez-y, là, c'est 1500 emplois fort bien payés. C'était des emplois payants dans les papetières.
Ben oui,
pour ces gens-là, c'était une catastrophe.
Pour te donner une idée, là, la Belgo, François, quand ça a fermé, c'est à Shawinigan. Là, moi, j'allais dans une école secondaire privée à Shawinigan. Puis je peux te dire que le nombre d'élèves était directement lié à la fermeture de la Belgo. Parce que tu n'avais plus de salaire, tu avais bien moins de monde à l'école privée.
OK. Alors, la fermeture a vidé l'école un petit peu.
Mais
c'est ce qu'on comprend.
Quand je suis parti, il restait en moins de 300 personnes.
Et là là. Puis il y en avait combien au début?
Mais quand il y avait l'Alcan qui marchait encore en plus de la Belgo, on était à 800. Puis ça a tombé à moins de 300.
Ça vous donne une idée, hein?
Ouais.
Là, je vais vous parler des débuts de l'industrie des pâtes et papiers. Parce que les premières usines, là, c'était des petites usines. Puis ils s'installent relativement près des grands centres, le long de petites rivières. La toute première usine de pâte et papier est construite à Saint-André d'Argenteuil. C'est dans les Laurentides. C'est en 1805. Elle était construite sur les rives de la rivière du Nord. Puis à l'époque, le bois n'entrait pas dans la fabrication du papier. C'est ce qu'on appelait la fibre agricole ou textile. On la trouvait entre autres dans les tissus. Alors dans ce temps-là, il y a des gens qui passaient dans les maisons pour acheter des guenilles pour ces usines.
Oh,
la
ouais.
fibre, on allait chercher ça dans les guenilles, puis les gens là, qui passaient de maison en maison, puis disaient « Avez-vous des guenilles? On va vous acheter ce que vous avez. » On appelait ça les guenillous.
Oh,
alors,
oui.
c'est, ouais, cette expression-là, les guenillous, vient de là. Les guenillous, dans le fond, c'était les gens qui allaient acheter des guenilles, du tissu qui servait plus aux gens pour fabriquer des pâtes et papiers. Mais évidemment, là, vous vous doutez bien que à ce rythme-là, la production était pas très grande.
Ouais,
puis de toute façon, au début du 19e siècle, du papier, on n'avait pas besoin tant que ça. Mais graduellement, les journaux vont gagner en popularité et la demande pour le papier va exploser. Puis en plus, vers la fin des années 1800, les procédés de fabrication vont se raffiner. Il y a le procédé Kraft qui est inventé en Allemagne. C'est lui qui intègre le bois dans la fabrication du papier et qui permet de construire de plus grandes usines plus performantes, bref, qui produisent plus de papier. Et ces usines demandent évidemment plus d'eau et doivent s'installer plus près de grandes rivières et le plus près possible de l'approvisionnement
ben oui.
en bois parce qu'on a besoin. Alors, c'est pour ça là, que la Mauricie, qui avec ses 7 usines, devient la capitale du papier au Québec et au Canada. Il y en a d'autres villes qui ont eu beaucoup d'usines. Trois-Rivières a eu 4 usines de pâte et papier à un moment donné qui fonctionnaient en même temps. Sherbrooke, Gatineau, Kings and Falls et Portneuf ont eu aussi autant d'usines à un moment donné. Puis l'âge d'or de l'industrie des pâtes et papiers est atteint au milieu des années 20. En 1926, le Canada devient le plus grand producteur de papier au monde. Et la Mauricie compte pour 50 % de la production du pays. Alors, ça veut dire que, grosso modo, là, la Mauricie n'était pas loin d'être le plus grand producteur de papier au monde.
C'est
là.
Quelque chose.
C'est, oui, c'est la moitié du papier venait de la Mauricie. Puis évidemment, cette explosion de la demande pour le papier a permis à plusieurs villes et villages de se développer et de naître carrément. Il y en a certains. Là, en fait, là, entre 1865 et 1927, il y a 7 villes et villages qui naissent grâce aux pâtes et papiers. Port-Alfred, Windsor, Latuque,
ben oui.
Chandler, East Angus, Témiscamingue et Lebel-sur-Quévillon. Puis il y en a d'autres, ben, des villes ou même des régions qui ont vu leur population monter en flèche après que l'usine se soit installée chez elles. C'est le cas pas mal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. Puis la demande croissante du papier et la technologie qui change pour incorporer le bois dans la fabrication, ben, ça force les compagnies à s'installer là où la ressource est abondante, mais parce que le bois entre dans 93 % de la fabrication du papier. Le 7 % qui reste, c'est l'eau.
Okay.
Et l'eau aussi est nécessaire pour produire l'électricité.
Ah,
là, avec des méga-usines, on a besoin d'électricité, hein, s'il vous plaît. Là. Alors, c'est pour ça que bien souvent, les usines sont construites à des endroits proches de cours d'eau à fort débit ou des chutes parce qu'il faut produire de l'électricité. Puis on n'a pas le loisir d'aller la chercher très loin. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs usines qui ont leur propre barrage et qui produisent leur propre électricité parce que c'est plus économique pour les compagnies de faire ça.
Ben, entre autres, quand tu penses, tu sais, dans les parties papier, Rio Tinto, là, à l'Alcan, dans le coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux autres, ils ont bien des barrages encore là-bas. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup pour leur aluminium.
Mais c'est sûr que ça va. L'aluminium, c'est la même. C'est le même défi que les parties papier. Ça prend beaucoup d'électricité. Alors, c'est pour ça que ces compagnies-là ont leur propre barrage. La collecte de la matière première, bien évidemment, c'était le principal défi. Il fallait aller bûcher le bois en forêt, puis on faisait ça en hiver. Les bûcherons empilaient le bois coupé sur la glace de la rivière. La rivière était gelée, alors on coupait du bois, on sacrait ça sur la glace, c'est le cas de le dire. Puis au printemps, quand la glace fondait, il se passait quoi? Ben, le bois tombait dans l'eau, puis il descendait la rivière. C'était quand même pas pire. Puis souvent, c'était les employés de l'usine qui montaient au camp en hiver pour bûcher. Alors, ces gens-là, dans le fond, pendant le printemps, l'été, ils transformaient le bois en papier. Puis à l'hiver, ben, ils montaient dans le bois, bûchaient du bois, mettaient ça sur la glace de la rivière, puis retournaient chez eux. Puis ben, au printemps, le bois arrivait à l'usine, puis le transformaient en papier. Puis tu en as parlé en tout début d'intervention, le musée Borealis, qui est situé dans ce qui reste de la Canadian International Paper, qui était la plus grosse usine lors des belles années de l'industrie des pâtes et papiers, ben, témoigne de ce passé glorieux, puis qui a permis au Québec de croître économiquement, en fait, de se développer économiquement, et la région de la Mauricie particulièrement.
Ben oui, puis ceux qui ont trouvé ton récit de l'histoire des pans et papiers en Mauricie intéressant, François, ben ils peuvent y aller. Là, le musée Borealis, là, c'est super beau, super intéressant, puis en plus, dans le contexte où on peut pas aller ben loin cet été, c'est encore plus pertinent d'aller faire un tour. Et en plus, c'est juste à côté de l'amphithéâtre de Cogeco, tu sais.
Bon, ben là.
Honnêtement. Hey François, un gros merci, super apprécié, puis bien intéressant comme d'habitude.
Ben, ça m'a fait plaisir, merci Alexis.
Salut François. Hey, quand il racontait, François, que t'sais, il faisait la drave là, des bûches. Mon grand-père, il me racontait que lui, il l'avait faite, la drave. Puis là, il y avait un code de couleur parce que là, tu avais la CIP. Puis là, il en avait une autre. Là. Je me souviens plus c'était quoi. Là. Mais là, il fallait qu'il démêle ça. Là. Fait que là, t'es ces bio, ouais, c'était dangereux. Ça n'avait pas de bon sens. Là. T'es sur le bout de bois. Là, faut que tu essayes de tasser l'autre bout de bois. Là, tu fais de la place. Là, tu tasses ça. Puis là, des fois, il faut que tu ailles en déprendre. Là. Mais quand ça débouche, ça, là, ça part, là.
Non, ouais, faut que tu t'enlèves de là.
T'es sur le bio, là. Mm. Ah, c'était quelque chose, c'était capoté, mais c'était une autre époque, hein, dans ce temps-là, là. La SNES, la CNES.
Ça travaillait fort. Puis moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 89, dans la région, il y avait encore de la pitoune sur la rivière Saint-Maurice qui descendait.
Hey, tu sais, quand tu regardes la Saint-Maurice, là, pas pour rien que, tu sais, il a fallu qu'ils creusent le fond, ouais, là, pour être capable de remonter jusqu'à la tuque d'un coup, puis je me souviens plus c'est quoi le terme qu'il utilisait là, pour dire qu'il nettoyait dans le fond pour être capable de remonter au complet. Mais pas pour rien, là, parce que t'as tellement de résidus là-dedans. Là. Ah, c'est quelque chose. Mais, comme je vous dis, c'est une histoire qui est fort intéressante. Pour savoir que la Mauricie était vraiment une pionnière. Quand t'as vu autant d'emplois qui dépendaient de ça, moi, je pense qu'encore aujourd'hui, entre autres à Shawinigan, quand tu vois une situation économique qui est peut-être plus difficile, c'est les contre-coups de ça. Là. On a décidé de mettre tous nos œufs dans le même panier, au même titre que. On peut bien dire que dans l'Ouest canadien, ils sont niaiseux avec le pétrole. Ouais. On a fait la même affaire avec les pâtes
et papiers. Mais c'était beaucoup comme ça, Alexis, dans les petites villes aussi, ouais, du Québec. Je veux dire, moi, j'ai travaillé à Baie-Comeau. Tu avais aussi une papetière, tu avais une aluminerie, Hydro-Québec. Bon, ben, il reste que tu avais des grosses industries. Tu as encore des grosses industries qui sont là et qui font vivre la ville. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as un changement sur le plan économique, comme par exemple ici, les papetières sont disparues, à partir de ce moment-là, les gens, fallait qu'ils se trouvent du travail. Puis là, il fallait que... c'était quand même des métiers qui étaient bien rémunérés.
Ben
au
oui,
fil vers dans les dernières années, c'était très payant de travailler dans une papetière.
Moi, je l'ai dit, là, puis j'ai toujours gardé cette image-là en tête, ça m'a fasciné. L'Alquin a fermé, la Belgo a fermé en l'espace de quelques mois, années. Puis, je vous dis, séminaire Sainte-Marie, là, à Shawinigan, là, j'étais là, là, on est passé de 800 à 275 à l'époque de quelques années à peine. Puis, c'est pas pour rien, là. Clairement qu'il y a un lien direct à faire entre les deux. 13h38, courte pause au retour. Ah! Sortez vos téléphones à roulette, commencez à pitonner, le quiz s'en vient et les nouvelles sous le radar également.